I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Cyril Morin et bienvenue dans le FC Stream Team. Maxime et Martin ne sont pas là pour évoquer leurs tribulations culinaires et leurs préférences gastronomiques pendant de longues minutes avant de daigner se pencher un tant soit peu sur l'actualité footballistique. Rassurez-vous, l'introduction de ce vendredi sera plus courte, mais niveau gastronomie, vous allez être servi puisque celui qui m'accompagne est un influenceur du beurre de micelle, un amoureux de la galette saucisse, un lobbyiste du Kouign-Amann. Comment ça va, Glenn Cellier?
Très bien. Bonjour Cyril, bonjour à tous.
Tu nous confirmes toujours que la galette saucisse au Roazhon Park est le meilleur mets d'avant-match de Ligue 1.
De Ligue 1 et du monde, je pense.
Du monde, carrément.
Je vois pas ce qui pourrait concurrencer la galette saucisse. Mais bon, c'est un avis très personnel, mais c'est impossible.
Alors, dans ce FC Stream Team que vous retrouvez évidemment en podcast chaque semaine, abonnez-vous, vous tapez FC Eurosport et vous retrouverez toutes les émissions d'Eurosport.fr. On va commencer par la galette saucisse qui a été mal digérée du côté du Roazhon Park jeudi et par la gueule de bois du football français en Coupe d'Europe. Les éliminations de Rennes, de Monaco et
de Nantes.
De Nantes, merci
face
beaucoup.
Face à la Juve.
Face à la Juve, la France et la Ligue 1 est-elle condamnée à échouer en Europe? Ce sera notre premier sujet.
Exactement. Le deuxième sujet, maintenant, on va partir sur, évidemment, le classique, le PSG-Marseille, le Marseille-PSG.
Absolument.
Plutôt, de dimanche soir, avec une question simple et directe. Qui est le favori pour ce choc?
Et on terminera ce FC Stream Team par évoquer un joueur qui a brillé dans la semaine. Mardi, il a fait vivre un calvaire à Liverpool. Où situer Vinicius dans la hiérarchie mondiale? Et pour reprendre les termes de Carlo Ancelotti, est-ce que Vinicius est le joueur le plus décisif du football mondial? On essaiera de placer le Brésilien dans une hiérarchie un petit peu hypothétique. Voilà pour le menu de ce FC Stream Team. Comme d'habitude, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission en vidéo. Et on va donc se pencher sur le premier thème de ce FC Stream Team, Glenn, avec les échecs français jeudi en Ligue Europa. Le FC Nantes balayé par la Juventus à domicile. Rennes piégé par le Shakhtar à domicile. Et Monaco renversé par les Leverkusen à domicile également. À la gueule de bois du football français et cette question un petit peu, Glenn, latente depuis plusieurs années désormais, est-ce que la Ligue 1 est condamnée à échouer au niveau européen?
Oui, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est une question qui revient parce que chaque année, on revient un peu au même bilan. C'est ce que tu dis, c'est les échecs en Ligue Europa de jeudi, d'hier, ont été marquants, sont un peu traumatisants, j'allais dire, pour le football français, surtout qu'il y en a certains qui étaient quand même évitables. Monaco était sur une très belle série et se fait quand même éliminer par le 10e de la Bundesliga, Leverkusen. Ouais. Le Stade Rennais se fait sortir par le Shakhtar Donetsk. Alors bien sûr, c'est un scénario frustrant, mais c'est quand même le Shakhtar Donetsk. On connaît tous la situation, malheureusement, du club ukrainien en ce moment. C'est quand même un vrai échec de perdre contre eux de ce match de barrage. Et puis, ce petit fiasco en Ligue Europa, il faut l'ajouter en plus à l'élimination de l'Olympique de Marseille en C1 dès la phase de poule. Ce n'était pas une poule non plus Tottenham, Francfort, je vous rappelle, et Sporting. Ce n'était pas non plus une poule injouable pour le club marseillais. Ça fait quand même beaucoup. Et pour couronner le tout, le PSG est quand même dans une situation un peu inconfortable face au Bayern Munich après sa défaite 1-0. Donc le bilan pourrait être catastrophique parce qu'il ne reste plus que Nice en Ligue Europa Conférence, qui est quand même pas la compétition européenne qui fait rêver tout le monde, et donc le PSG. oui, ça vaut le coup de se poser la question sur l'état du football français en Europe à l'heure actuelle.
Ce qui est terrible, c'est le sentiment de frustration qu'on a après ce jeudi. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'enthousiasme à raison, et vraiment on insiste là-dessus, sur le niveau de la Ligue 1 chaque week-end. On prend du plaisir à suivre cette Ligue 1, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Il y a des vrais projets de jeu identifiés, il y a des vrais joueurs qui ont, qui apportent énormément à notre championnat. Et on avait envie d'avoir une retranscription un petit peu de ça au niveau européen. Moi, ce qui m'interpelle dans ce qui s'est passé jeudi, c'est la gestion, finalement, de ces trois matchs. Alors, bon, Nantes a été balayé par plus fort que lui, ouais. Tombé sur entre Di Maria en état de grâce. Bon, voilà, Nantes, circonstances atténuantes, on va dire. En revanche, ce qui s'est passé pour Monaco et ce qui s'est passé pour Rennes, ça me rappelle aussi un petit peu ce qui s'est passé pour Marseille face à Tottenham avec ce dernier match et cette gestion un petit peu faux-folle des dernières minutes, c'est-à-dire qu'on est tombé dans l'excès inverse. On a beaucoup reproché par le passé à la Ligue 1 de bétonner, de ne rien proposer au niveau européen. Là, on est tombé dans l'excès inverse d'équipes qui sont très joueuses, mais qui du coup ont du mal à tuer les matchs et qui ont du mal même à endormir les matchs. Que Monaco prenne 3 buts à domicile, bah, c'est pas normal. Monaco aurait dû endormir ce match au retour et gérer tranquillement une victoire acquise de haute lutte au retour. Quand on voit ce qui s'est passé à Rennes, ils doivent tuer ce match bien avant. Ils doivent marquer plus de buts que ce qu'ils marquent face au Shakhtar. Donc, il y a une gestion de match qui interpelle et on en revient à ce problème de gestion de ces moments européens. Il faut se souvenir que Lyon, qui pour le coup est une des équipes qui, même s'il est absent depuis plusieurs années maintenant des compétitions européennes, a acquis une expérience européenne et un savoir-faire dans ces gestions de match. Là, on est encore dans la phase de l'apprentissage pour ces clubs-là qui viennent d'année en année et qui prennent un petit peu des murs d'année en année. Je pense notamment à Monaco. Va falloir qu'on franchisse un cap. Mais malgré tout, on en vient à une gestion émotionnelle et on en vient à remettre un petit peu aussi en cause les projets construits par ces clubs-là parce que au plus haut niveau européen, bah, quand vous avez une équipe très très jeune comme celle de Rennes par exemple, bah, on arrive fatalement à ces résultats-là où il manque ce petit supplément d'âme ou ce petit leader qui peut vous faire calmer le match ou gestion temps fort, temps faible. C'est ça qu'il a manqué au club français jeudi.
Pour Rennes, par exemple, aussi, il a manqué des leaders. On sait que Bourigeaud n'était pas là, que Terrier, évidemment, n'est pas là et que Traoré n'était pas là. Donc, ça fait beaucoup. Mais c'est ce que tu dis. Le problème en ce moment, c'est que c'est des équipes qui manquent aussi d'expérience au plus haut niveau en Coupe d'Europe. Et pour avoir de l'expérience à ce niveau-là, il faut enchaîner les matchs et il faut surtout réussir à passer un ou deux caps dans ces saisons européennes. Le match de barrage de Ligue Europa, c'est exactement ça. Pour s'offrir des expériences au plus haut niveau européen, il faut réussir à passer ce barrage qui est normalement accessible. Et le problème, c'est que là, ils se sont tous cassés les dents sur ça. Et c'est assez récurrent ces dernières années. Il y a évidemment des petites performances en trompe-l'œil. J'allais dire Marseille qui parvient en finale, en demi-finale de Ligue Europa de conférence l'année dernière. Il y a évidemment quelques performances du PSG en Ligue des Champions, etc.
Lyon en demi-finale du Final Eight, ça dit pas grand-chose du niveau du championnat finalement.
Non, et c'est ce qui est troublant, c'est qu'on avait l'impression, l'envie surtout avec ce qu'on voit en Ligue 1, ce que tu disais très bien cette année, c'est que cette année on voit de belles choses en Ligue 1 et on a l'impression qu'il y a des locomotives dans le football français à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a cinq équipes, on va dire à peu près, qui produisent quelque chose, qu'on voit un vrai projet de jeu, qu'on voit où ils veulent aller, ils ont les coachs pour, ils ont les effectifs pour, et ça ne se traduit pas. Et c'est ça la claque, c'est ça qui est dur à l'heure actuelle, c'est que ça ne se traduit pas en Coupe d'Europe cette année, alors qu'en plus, on peut le voir, notre football produit des talents, on le sait évidemment, parce qu'on voit ce que fait l'équipe de France depuis des années maintenant, on se dit qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est toujours la même histoire. C'est bien beau de faire notamment du trading, de cette logique de vendre tes jeunes joueurs les plus prometteurs. Le problème, c'est que du coup, pour construire quelque chose sur le long terme, et notamment en Europe, où il faut réussir à construire un effectif qui accumule de l'expérience, qui sait où ils vont et où il va aller, etc., peut-être que ce trading, c'est toutes les limites du trading.
Ce qui est intéressant, c'est si on regarde le classement de l'indice UEFA, où la France reste encore cinquième, sous la menace des Pays-Bas, mais qui ont perdu des représentants, et du Portugal, finalement, on voit que la France, elle est plutôt dans le groupe Pays-Bas-Portugal qu'avec Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie. Donc il y a un vrai, le top 4 existe toujours, le Big ouais. Five reste une fausse notion, on va le dire. Et je suis d'accord avec toi sur le trading. En fait, on se rapproche de plus en plus, nos clubs français se rapprochent de plus en plus des modèles portugais et des modèles hollandais, avec des locomotives qui viennent en Europe chaque année, qui exposent des joueurs mais qui les vendent très rapidement. Et j'ai aussi un petit regret, c'est que c'est un cas un peu symptomatique. Je vais prendre l'exemple de Monaco et de sa formidable saison 2016-2017 qui pour moi est un trompe-l'œil et qui a un petit peu induit en erreur. C'est-à-dire que quand on pense au modèle de Monaco façonné par Luis Campos, on pense à Bernardo Silva, on pense à Benjamin Mendy, on pense à Kylian Mbappé, des joueurs qui ont été revendus au prix d'or, qui ont profité de l'exposition de la Ligue des Champions pour faire grimper les prix et pour créer un cercle vertueux sur le marché des transferts. On oublie de parler que cette équipe-là, il y a quand même Falcao, il y a quand même Glick, il y a quand même ouais. Subasic, il y a quand même Moutinho. Il faut des joueurs pour encadrer ces joueurs-là. Et le trading, il faut trouver cette limite entre...
L'équilibre.
Voilà, cet équilibre entre les joueurs d'expérience qui vous amènent au-dessus. Je pense à un José Fonte aussi à Lille, lorsque c'est Lille a gagné avec Galtier. Ces joueurs qui sont des leaders et qui connaissent ces chocs-là, et des jeunes qui vous portent un petit peu. Mais ça ne peut pas être vos jeunes qui sont à la fois des leaders techniques, à la fois des leaders moraux et de caractère, parce que ça ne marchera pas. Donc attention à ne pas tomber dans l'excès inverse du trading. Encore une fois, on est aussi sur un processus d'apprentissage. On a envie de croire que Monaco ou Rennes, s'ils sont présents la saison prochaine en Ligue des Champions, auront appris de leurs erreurs. Pareil pour l'Olympique de Marseille. Mais heureusement que la réforme de la Ligue des Champions risque d'offrir un petit bol d'air gratuit aux championnats français.
C'est ce que tu dis, ça peut changer beaucoup de choses, la réforme de la Ligue des Champions, justement, parce qu'on le sait, il y a une nouvelle formule qui arrive dès l'année prochaine. Et pour cette nouvelle formule, si vous êtes cinquième, c'est pour ça que c'était déterminant de garder cette cinquième place à l'indice UEFA. Si vous êtes cinquième, vous avez quatre clubs en Ligue des Champions, dont trois directement en phase de poule, ce qui vous permet de changer clairement de catégorie, parce que c'est ce qu'on le sait, le football français avait été l'un des grands perdants de la dernière réforme par rapport aux autres quatre gros championnats européens, j'allais dire. Là, ça peut changer beaucoup de choses, parce qu'on le sait, en termes de finances, c'est déterminant, la Ligue des Champions, parce que ça peut rapporter énormément à un club, et notamment pour des clubs de Ligue 1.
Puis c'est de l'exposition en plus.
Exactement, ça peut tout changer. Et on le sait, les finances des clubs français, avec tout ce qui s'est passé sur les droits TV ces derniers temps, c'est un peu compliqué, c'est difficile, il y a une petite incertitude encore. Évidemment, être en Ligue des Champions peut faire énormément de bien, j'allais dire, au club français et à la Ligue 1 en général, qu'on a besoin.
Mais voilà, on a fini sur ce sujet. Peut-être un petit mot pour dire que, décidément, les tirs au but et la France, ces derniers mois, c'est un petit peu compliqué. On ne rebondira pas sur les propos de Bruno Genesio, qui nous a affirmé encore une fois que c'était une loterie.
Ouais.
Bon, on lui conseille des études sur le sujet qui prouvent que ce n'est pas le cas, même si, évidemment, la fatigue peut rentrer en jeu. Mais si la pièce tombe systématiquement du mauvais côté, c'est aussi peut-être qu'il manque quelque chose dans la formation et dans l'approche mentale de ces matchs-là.
Ouais, et puis, je pense que Rennes devait finir le match avant. Et devait conclure cette double confrontation bien avant.
On va basculer sur le deuxième sujet et on va donc revenir à notre bonne vieille Ligue 1, notre Ligue des Talents qui nous offre ce dimanche le choc parfait, rêvé, avec un Vélodrome qui devrait battre son record d'affluence. Ouais. Ça dit aussi quelque chose de l'engouement qu'il y a actuellement à Marseille. OM PSG, le premier contre le deuxième. L'Olympique de Marseille qui peut revenir à 2 points du Paris Saint-Germain en cas de victoire. Et cette question, Glenn, très directe, très simple. Qui est le favori entre Paris et Marseille?
C'est difficile d'y répondre, on va se plonger là-dedans.
C'est déjà une victoire de Marseille que ce soit difficile d'y répondre.
Ouais, déjà ce qui a changé la donne, on va juste rappeler les derniers PSG-OM, évidemment, on le sait, il y avait une série parisienne qui durait depuis pas mal de temps, et Marseille a réussi à domicile la dernière fois en Coupe de France à stopper cette spirale infernale en s'imposant en février dernier. Donc
c'était il y a 2 semaines.
Voilà, quasiment. C'était il y a 2 semaines, donc voilà, on se dit que la tendance a peut-être évolué, qu'il n'y a plus ce complexe d'infériorité peut-être des Marseillais quand ils jouaient le PSG. Et surtout, ils ont montré tous les ingrédients la dernière fois en termes d'intensité, de rythme, etc. pour contrecarrer les plans du PSG. Mais alors moi, je suis peut-être plus à me dire que Paris, Paris a encore pour moi une petite marge. Et Paris surtout va... Il y a une question d'orgueil, je pense, qui va jouer, qui va peser. Et enfin, un élément pour moi qui peut faire toute la différence, c'est que la dernière fois, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Alors là, bien sûr, Neymar est blessé, mais la dernière fois en Coupe de France, Kylian Mbappé n'était pas là. Et ça va pour moi tout changer, parce que le plan de la dernière fois de d'Igor Tudor contre le PSG, c'était notamment ce pressing étouffant que les Parisiens, que les Marseillais ont réussi à imposer aux Parisiens, qui ont été incapables d'en sortir, et notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la profondeur derrière dans la défense marseillaise, qui pour moi aurait un peu tout changé dans ce rapport de force. Et celui qui peut typiquement apporter ça à une équipe, c'est évidemment Kylian Mbappé. Avoir Kylian Mbappé, on l'a vu les quelques minutes où il a joué contre le Bayern, peut évidemment, c'est le joueur, l'un des rares joueurs à l'heure actuelle qui change tout quand il est sur le terrain ou pas, et je pense que ça peut être le facteur X de cette rencontre.
Tu parles de réaction d'orgueil, oui, elle viendra que s'il y a Mbappé, il sera là, ouais. Hein, mais l'orgueil n'est pas la qualité première de cet effectif parisien, non, jusqu'à présent. Je te rejoins sur le fait que c'est impossible qu'on revoie le même scénario que lors du 8e de finale de Coupe de France. Ajoute à ça la présence de Mbappé, certes, mais également l'absence de Mbemba et de probablement Djigo pour ce match, qui met un petit peu l'OM dans l'embarras défensif. Reste que pour moi, celui qui a les clés du match, c'est davantage Igor Tudor que Christophe Galtier. Christophe Galtier qui ne sait toujours pas relancer son équipe actuellement, qui est un peu dans une impasse. Quand on voit les derniers résultats comparés, il y a une équipe qui est en pleine bourre et une autre qui est en plein doute. Alors oui, le PSG a gagné contre Lille, mais c'est une victoire qui ne reflète pas exactement ce qui se passe au Paris Saint-Germain actuellement. Et j'ai dans l'idée que Marseille a beaucoup plus d'atouts à faire valoir que le Paris Saint-Germain ces dernières semaines.
Collectivement, je suis totalement d'accord.
Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est que c'est peut-être la première fois. Alors, si Marseille venait à gagner contre le PSG pour la deuxième fois de suite, ce serait la première fois dans l'histoire du PSG sous l'ère QSI que Paris perdrait deux fois de rang face à l'OM. Ça dirait quand même quelque chose, autant de la progression, ouais, marseillaise que de la régression parisienne. Et il y a quand même quelque chose dont il faut parler, c'est le niveau intrinsèque de ces équipes et de ces joueurs. Si on vient à faire le 11 type croisé de ce OM-PSG, en termes de niveau intrinsèque cette saison, combien il y a de Parisiens derrière? J'en vois pas énormément. Peut-être les Pistons.
Sur le niveau pur de saison.
Non, mais ça, je te rejoins complètement.
Sur la
charnière centrale. Je suis pas sûr.
Oui, mais la charnière centrale, on en revient.
Je suis pas sûr.
Charnière centrale, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, si Chantal Mbemba n'est pas là, il est suspendu. Okay. Si Samuel Djigo n'est pas là, c'est quand même pas la même chose d'avoir Eric Bailly en défense centrale, notamment face à Kylian Mbappé. C'est pas la même. C'est ouais, ce qui change pour moi beaucoup de choses
en
rapport de force.
Marquinhos-Ramos, c'est pas non plus
dingo. C'est pas fondamental.
Et moi, entre le milieu de terrain marseillais et le milieu de terrain parisien, ouais, ces dernières semaines, je sais lequel je choisis.
Ouais, clairement.
Donc, moi, si je devais choisir un favori, je mettrais l'OM, autant pour la dynamique que pour le poids du Vélodrome et pour le statut d'outsider. Quand on voit la pression qu'il y a actuellement à Paris, pardon, quand on voit les images de Luis Campos le week-end dernier. Voilà, y a quelque chose qui me fait dire que Paris est à un fil de rompre complètement et d'imploser complètement, là où Marseille est à une victoire de faire basculer sa saison dans une autre dimension. Je mets l'OM, même si j'entends que la présence de Kylian Mbappé change évidemment beaucoup de choses. Mais est-ce qu'un joueur peut indéfiniment sauver le Paris Saint-Germain? Si Tudor arrive à trouver la clé, voilà.
Non, je te rejoins totalement sur ce constat de dynamique, etc. Ça, c'est évident que c'est clair. Et surtout que le PSG, c'est ce que tu dis, pour moi, ça peut être un match charnière pour la suite du PSG et de la suite de l'aventure de Christophe Galtier à Paris. Parce que s'il a eu une semaine pleine pour travailler là, il a donné deux jours de repos
voilà, lundi, mardi, mais derrière, vendredi, entraînement.
Il a pu, alors lui, en plus, était malade. Donc, voilà. Mais en gros, il a pu mettre un peu plus des choses en place. Avoir des joueurs qui se sont un peu ressourcés, j'allais dire, que ce soit mentalement, parce que je pense qu'ils en avaient besoin, et physiquement. Je pense que ça peut faire quelques petites différences. Et surtout, le match face à Lille, qui a été deux doigts d'être une catastrophe absolue la semaine dernière, le week-end dernier, il y a eu quelque chose. Il y a eu, que ce soit collectivement, etc., il y a eu une réaction du groupe, une réaction des talents parisiens, notamment.
Surtout. Enfin, la réaction, elle est venue d'un gamin de 16 ans sorti du banc. Quoi.
Mais je pense que ça a pu ressouder peut-être une équipe qui en avait cruellement besoin, et que s'ils ne trouvent pas les ressources mentales là pour montrer autre chose que ce qu'ils montrent ces dernières semaines, les Parisiens, ils savent ce qui les attend pour les prochaines semaines. Et comme ils ont encore un peu de temps pour préparer le Bayern, je pense, j'attends en tout cas une vraie réaction de ce que je disais, d'orgueil, une réaction collective peut-être de cette équipe parisienne qui pour le moment ne nous a pas montré ça depuis de longues semaines, j'allais dire même de longs mois, depuis la Coupe du Monde en gros, où on a l'impression qu'il y a un fil qui s'est cassé même au depuis, Qatar. Même un peu matchs. Avant. Ouais.
À chaque fois qu'on a vu le Paris Saint-Germain ces dernières semaines face à une équipe pleine d'intensité, Paris a perdu.
C'est aussi simple que ça.
Donc, alors non, ils ont gagné contre Lille, pardon. Sur des faits de jeu incroyables, sur un coup franc à la dernière minute de Messi. C'est pour ça que je dis que Paris tire un fil. Et à mes yeux, l'intensité que va mettre Marseille avec un Vélodrome plein fait pencher légèrement la balance du côté Marseille.
Ce qui me fait peur, moi, c'est ce pressing haut que j'attends des Paris, des Marseillais et que j'ai vu, peur dans le sens peur parce que j'ai peur que ça se retourne contre eux dans le sens où
tu peux adapter ton pressing autrement
j'attends de Tudor qui a gagné clairement la bataille tactique du dernier match contre Galtier, c'était même une leçon. J'attends de Tudor justement peut-être qu'il retrouve encore des ingrédients pour encore contrecarrer complètement les plans parisiens avec cette fois-ci, je le répète, avec Kylian Mbappé sur le terrain qui est pour moi j'insiste là-dessus, le joueur qui peut faire clairement pencher ce classique, ce choc de la Ligue 1.
Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? C'est pas la question qu'on va se poser maintenant, Glenn, mais on va presque l'effleurer du doigt puisqu'on va passer au troisième sujet. On va parler du Brésilien qui a ébloui tout le monde cette semaine en Ligue des Champions, Vinicius Junior, qui a permis au Real Madrid de faire ce qu'il sait faire de mieux, une remontada, mener 2-0 à Anfield, et puis finalement une victoire 2-5, avec un Vinicius Junior ultra décisif, auteur d'un doublé, impliqué sur le troisième but, et passeur décisif sur le quatrième but, si je dis pas de bêtises, ou cinquième, je sais plus, pardon, mais sur la merveille collective du Real, ce qui a entraîné ces déclats élogieuses de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Aujourd'hui, selon moi, c'est le joueur le plus décisif du football mondial, Determinante. Pour sa régularité, sa fiabilité, il ne s'arrête jamais, il frappe, il donne des ballons, il marque. La question qu'on va se poser, Glenn, est-ce que Vinicius est vraiment le joueur le plus décisif d'Europe? Et peut-être rebasculer la question autrement, où situer Vinicius dans la hiérarchie mondiale?
Ouais, c'est hyper intéressant les déclats de Carlo Ancelotti. Et c'est vrai que Vinicius a changé de statut depuis, on va dire, un an maintenant, un peu plus de deux saisons. Et cette année, il fait encore une saison pleine, juste pour remettre les choses dans le contexte. Il est à 7 buts et 4 passes décisives en Liga, mais surtout, parce que c'est ça, il est à 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions et donc à 18 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est, somme toute, très, très bien. Là où peut-être qu'il y a un petit bémol, c'est qu'il y en a d'autres qui flambent à côté. Il y en a d'autres qui font aussi une saison monstrueuse. On pense évidemment à Kylian Mbappé, on vient d'en parler. Il est quand même à 27 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues. On pense évidemment à Erling Haaland, qui est à 32 buts en 32 matchs. On pense aussi, dans une moindre mesure, parce que le Barça vient en plus de vivre une petite désillusion européenne, encore une fois, à Robert Lewandowski qui a 30 buts en 25 matchs.
En 30 matchs.
Et on pense aussi à quelqu'un qui fait une saison folle à Manchester, évidemment, à Marcus Rashford qui est quand même à 24 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Donc juste si on se base sur les stats pures, il y en a d'autres et d'autres qui montrent qu'ils sont aussi décisifs, voire plus décisifs que Vinicius. Après, c'est vrai que sur l'impression, ce qu'on voit sur le terrain, Vinicius a cette capacité en Ligue des Champions à faire des vraies différences. C'est le joueur clé pour moi du Real Madrid cette année en Ligue des Champions. C'est lui le leader en attendant Karim Benzema qui vit une saison un peu contrariée par les blessures. Je trouve qu'offensivement, Vinicius en ce moment porte le Real en Ligue des Champions par justement cette aptitude qu'il a à dribbler, à aller perturber les défenses adverses. Et ce qui fait pour moi l'évolution de son jeu, c'est qu'avant il était plutôt critiqué par les choix qu'il pouvait faire dans les derniers gestes. Maintenant, il est vraiment, il a passé un cap là-dessus.
Moi je suis pas d'accord avec Carlo Ancelotti.
Ah oui,
déjà, faut le dire. Est-ce que c'est le plus décisif d'Europe? Factuellement, non. Et même en termes de leadership, Mbappé, il se ressemble avec Vinicius de par leur capacité à offrir de l'oxygène et à métamorphoser presque le visage de leur équipe quand ils sont présents, par leur capacité à faire mal en contre, par leur capacité à, enfin, en transition, pardon, la capacité à dribbler. Mais il y a un côté inéluctable chez Kylian Mbappé que je ne vois pas encore chez Vinicius Junior. On a parlé de la Ligue des Champions. Finalement, ce qui éclaire le plus à mes yeux Vinicius Junior, c'est plutôt la Liga et sa difficulté encore à marquer à tous les matchs, à être systématiquement là. Alors, il y a beaucoup de choses qui le perturbent aussi. Il vit une Liga où il se fait matraquer par les défenses adverses. Il y a eu aussi des actes racistes qu'il faut souligner et qu'il faut dénoncer, qui peuvent perturber un joueur, ça c'est évident. Mais sa marge de progression, elle se situe encore là, c'est d'être complètement indépendant. Tu as parlé de Karim Benzema. J'ai encore dans l'idée que Vinicius est forcément meilleur avec Karim Benzema. Ce qui n'est pas forcément le cas de Kylian Mbappé, finalement, qui est devenu un joueur autosuffisant, indépendant, ouais, et qui sait tout faire tout seul. Revoyez son but face à Lille. Ça vous dit à quel point on en revient au côté inéluctable de la chose, ce qui fait qu'à mes yeux, Mbappé est encore un cran au-dessus. En revanche, sur les 2 ans écoulés, il fait Vinicius partie du gratin européen et je le mets parmi les noms qu'on a cités. On est encore au-dessus de Marcus Rashford à mes yeux parce que on est au plus haut niveau européen, on est au niveau
au Real Madrid, de
la plus belle compétition au monde, on est au Real Madrid, on est buteur en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, à mes yeux, Vinicius est un vrai candidat au Ballon d'Or, autant par son style de jeu que par sa capacité à être de plus en plus décisif. Il lui manque encore un tout petit palier pour être le joueur auquel on espère qu'il deviendra, mais il est en train de le franchir tranquillement. Et on est presque content pour lui que Kylian Mbappé n'ait pas rejoint le Real Madrid l'été dernier, parce que tactiquement, je ne sais pas quel ajustement il aurait fallu faire, mais possiblement que Vinicius aurait dû changer d'aile. Et en fait, quand il est sur le côté gauche, il fait tellement mal qu'on est content de le voir à ce poste-là.
Ce qui va être un vrai débat si ça repose la question dans quelques temps. Mais c'est sûr que ce que j'apprécie avec Vinicius, c'est son changement. C'est-à-dire qu'il a su s'adapter, il a su écouter peut-être les critiques aussi et évoluer là-dessus. Et on le rappelle, il a quand même prolongé l'été dernier au Real. Il se retrouve dans les plus hauts salaires comme les Kroos, Benzema, évidemment.
Il était très, très bas. Il avait encore son salaire
ce qui n'était pas illogique. Il est encore très jeune. Là, il n'a que 22 ans, hein, donc il a encore tout à prouver, mais il répond présent. C'est-à-dire que malgré ça, il refait une saison où on pouvait attendre de lui. Voilà. Mais je suis assez d'accord. Je trouve que malgré tous les déséquilibres qui provoquent, malgré cette capacité à être décisif qui évolue dans le bon sens, il lui reste encore quelques caps à passer pour dire que c'est le joueur le plus décisif au monde, comme le décrit Carlo Ancelotti, qui évidemment le brosse dans le sens du poil. Mais voilà, je pense qu'il y a encore quelques caps à passer. Kylian Mbappé, quand on voit la Coupe du Monde, par exemple, ou des choses comme ça, il y a encore une petite marge, je trouve, entre les deux. Mais il est sur le bon chemin, et c'est quand même un garçon qui a terminé 8e du dernier Ballon d'Or, qui, pour moi, un jour, pourrait postuler au Ballon d'Or s'il continue.
C'est même pas un jour, c'est même dans un futur proche.
Un futur proche, quand on est 8e au Ballon d'Or. Il peut postuler s'il continue sur ce qu'il est en train de montrer depuis quelques mois, depuis un an et demi maintenant.
Voilà, sachez pour l'info qu'on parle potentiellement d'un changement de numéro pour hériter du numéro 7. Et quand on sait à quel point ça pèse lourd au Real Madrid, ça vous dit à quel point la Casablanca mise gros sur lui. Je crois qu'on a fait le tour, Glenn. On n'a pas parlé de Kouign-Amann, mais
Est-ce qu'on pourrait faire le top
mais de Kouign-Amann? Le problème, c'est que ce serait une émission de 2h30, je pense, et il faudrait déguster.
Exactement.
Et vous le savez, on arrive au moment où il va falloir faire des efforts pour le body summer, pour le summer body, pardon.
Donc, pas besoin de
pas de Kouign-Amann pour nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le FC Stream Team. Je crois que les fidèles seront de retour. Rendez-vous également lundi pour retrouver Tour d'Europe avec Julien Pereira. Abonnez-vous à la chaîne Eurosport FC sur toutes les plateformes d'écoute pour retrouver et Tour d'Europe et le FC Stream Team, ainsi que Mercredi Mercato qui reviendra l'été prochain. Les meilleurs moments de l'émission, on le répète, sont à retrouver sur eurosport.fr en vidéo. On remercie Quentin Guichard à l'habillage et Sébastien Petit à la réalisation et au montage. Et on vous dit bon week-end.
Bon week-end à tous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.